On va sans tarder lire deux passages pour introduire ce message. Ces passages se trouvent dans Exode, le premier passage dans Exode, chapitre 17 et le verset 3. En fait, on va voir deux attitudes, deux situations qui ont l'air de se ressembler à première vue et qui n'ont pas fini de la même façon. Exode, chapitre 17 et le verset 3, c'est la première situation. Il s'agit du peuple d'Israël. Exode 17 et le verset 3. Le peuple était là, pressé par la soif et murmuré contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple, prends avec toi les anciens d'Israël, prends aussi dans ta main le bâton avec lequel tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Deuxième lecture se trouve dans Juges et le chapitre 15. Juges, chapitre 15 et le verset 18. Cette fois-ci, il est question de Samson. Alors, Juges 15, verset 18. Samson qui vient de remporter une grande victoire, il vient de tuer 1000 personnes avec une mâchoire d'âne. C'est pas la meilleure arme qu'on connaisse. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'armées qui aient une mâchoire d'âne dans leurs munitions. En tout cas, Dieu lui a permis de venir à bout de cette guerre de cette manière. Et il se trouve juste après ce moment de grande victoire. On peut même lire au verset 17. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela ce lieu Ramat Leki. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis ?» Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Leki, il en sortit de l'eau. Sans son but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En Akoré, ce qui signifie la source de celui qui invoque, et elle existe encore aujourd'hui, à Leki. Amen. Deux situations qui semblent en apparence se ressembler. Vous êtes d'accord? Dans les deux situations, les personnes se trouvent dans des endroits déserts, des endroits secs, et ils se trouvent dans un état particulier, suite à toutes sortes de circonstances qui font qu'ils ont soif. Ils ont très soif et ils se trouvent dans un désert. Et le problème, c'est que dans un désert, il n'y a pas d'eau. Et ils sont là, la Bible nous dit que dans les deux cas, ils sont pressés par la soif. C'est-à-dire qu'il y a un fort sentiment de soif qui est en eux. Et on sait ce que c'est quand on ne boit pas pendant quelque temps. Notre corps réclame de l'eau pour pouvoir nous apporter ce rafraîchissement. Et dans les deux situations, les personnes sont pressées par la soif. Mais ce qui fait toute la différence, c'est qu'il y a deux réactions totalement différentes. Vous êtes d'accord? Elles n'ont pas du tout réagi de la même façon. D'un côté, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contesté, il a murmuré, il a voulu lapider Moïse, il a manqué de respect envers l'autorité que Dieu avait établie. Ce n'était pas Moïse de lui-même qui était venu, c'est Dieu qui a appelé Moïse. Ils ont manqué de respect envers cela, et non seulement ça, mais en plus, ils ont murmuré et contesté contre Dieu. Ils ont même tenté Dieu. Il est dit ça comme ça. Pourtant, Dieu, dans sa grâce, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le rocher par la main de Moïse. Il lui a dit de frapper le rocher. Le rocher s'est fendu et l'eau a jailli abondamment. Et malgré cette attitude mauvaise de ce peuple, Dieu a quand même donné à boire à son peuple, parce que c'est un Dieu de grâce. Mais si on regarde la suite de l'histoire, on sait que la plupart de ceux qui ont bu cette eau-là, ils sont morts dans le désert. Samson, c'est différent, parce qu'au moment où il a il était pressé par la soif. Ce qu'il a fait, il a eu cette bonne attitude de cœur de crier à l'Éternel, d'invoquer l'Éternel. D'ailleurs, ils ont surnommé la source de celui qui invoque, la source de celui qui prie de tout son cœur. Il était pressé par la soif, mais il a prié de tout son cœur. Et quand Dieu a entendu cette prière, c'est Dieu lui-même qui a fendu, je ne sais pas comment on dit, vous avez compris, la cavité du rocher pour que l'eau puisse jaillir et pour qu'il puisse être ranimé. Vous avez vu ce qu'il est marqué au verset 19, « Sans son but, son esprit se ranima et il reprit vie. » Il reprit vie. La question cet après-midi, ce n'est pas de savoir si on a soif de quelque chose. Parce que nous avons tous soif de quelque chose. Nous sommes tous pressés par une soif dans notre cœur. Il y a tous, en chacun de nous, une soif qui est là. Je parle de manière spirituelle. Nous avons tous une soif que nous devons essayer d'apaiser en nous. Mais la question n'est pas de savoir si cette soif, elle existe, parce que cette soif, elle est là. Et des fois, on ne s'en rend pas compte. La question, c'est de savoir avec quoi nous étanchons cette soif. Et souvent, les gens croient que, par exemple, la richesse, c'est un moyen d'étancher la soif. Ça va nous donner une certaine paix, une certaine assurance. Mais si on parle avec les personnes riches, et même les personnes les plus riches ne sont pas assurées d'avoir la paix à cause de leur richesse. Certaines fois, on croit que c'est dans nos relations amoureuses qu'on va trouver une certaine paix, un certain bonheur. On a une soif que ça se passe bien, et c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on va trouver de quoi étancher notre soif totalement dans ces choses-là? La Bible nous dit que non, nous devons mettre en premier le Seigneur Jésus. Est-ce que j'ai soif de celui qui peut me rafraîchir véritablement? C'est plutôt cette question qu'il faut se poser. Ou est-ce que j'ai soif de ceux qui n'étanchent pas ma soif vraiment? Est-ce que vous avez déjà eu vraiment soif? Ça vous est déjà arrivé, après avoir travaillé en plein soleil, à monter des murs de parpaings, je ne sais pas quoi, enfin bref, un soleil qui cogne à 40 degrés, on a soif à ce moment-là. Et vous avez remarqué que quand on a vraiment soif, quand on se trouve dans ces moments où on est pressé par la soif, il n'y a rien qui désaltère autant que de l'eau toute simple. Pas d'une boisson sucrée, je ne vais pas faire de pub, mais pas telle ou telle boisson, mais de l'eau toute simple. Sans rien ajouter, juste de l'eau pure, de l'eau fraîche. Et de la même manière, spirituellement, il ne faut rien ajouter à ce que la Bible propose. La Bible nous propose une eau particulière. Elle nous propose l'eau de la vie, l'eau qui communique la vie, l'eau qui procure la vie à celui qui va la boire, à celui qui va la prendre et la saisir. Et cet après-midi, je voudrais simplement qu'on puisse regarder quelques particularités de cette eau qui procure la vie. Et la première de ces choses, c'est l'eau de la vie, elle est pure. Et ça se trouve dans Ézéchiel, chapitre 36, et le verset 25. On lit cette particularité, Ézéchiel 36, 25. On le connaît ce passage, mais c'est bon de le relire. Ézéchiel 36, 25. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Voilà la promesse du Seigneur. « Je répandrai sur vous une eau pure. » Et je lis pour vous ce second passage, Hébreux 10, 22. « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. » L'eau de la vie, elle est premièrement pure. Et si on veut imager cela, ça veut dire que la source de Dieu, c'est quelque chose qui est accessible. C'est accessible parce que Dieu nous permet d'être purifiés par l'eau de la vie. Dieu nous permet d'être totalement sanctifiés, d'être totalement saints, sans péché, lavés de tout cela, parce qu'il nous lave, parce qu'il a payé le prix pour pouvoir nous laver. Est-ce que nous avons soif d'eau pure? Avoir soif d'eau pure, ça veut dire qu'on doit reconnaître, avant d'avoir soif d'eau pure, on doit reconnaître qu'on est souillé, on doit reconnaître qu'on est impur, on doit reconnaître qu'on est pécheur, on doit reconnaître qu'à cause de ce péché, à cause de cette souillure, à cause de toutes ces choses, de nos imperfections, on est privé de la présence de Dieu. Et à cause de tout ce péché, toute cette montagne de péché qui est là devant nous, on ne peut pas accéder à cette eau pure. Et on a besoin de le reconnaître. Est-ce que on peut imaginer ensemble un petit garçon qui joue dans la boue? C'est pas quelque chose de dur à imaginer. Il suffit d'avoir un enfant, et qu'on le met dehors après qu'il ait plu, et on sait ce que ça fait. Il joue dans la boue, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, c'est pour ça que j'en parle. Et il joue dans la boue, mais on a beau lui dire non, on ne va pas dans la flaque, il y va en plein dedans, et il se retrouve avec de l'eau jusqu'aux chevilles, et plein de boue de partout. Et si on fait pas attention, il peut rentrer dans la maison et salir partout. On est d'accord? C'est déjà arrivé à quelqu'un, cette situation? En tout cas, qu'est-ce que vous pensez de ce petit enfant que sa maman va corriger? Elle va lui expliquer, tu vois, tu as mis de la boue partout, c'est pas bien, il faut que tu me demandes pardon. Et le petit enfant, innocemment, il demande, pardon maman, je voulais pas te faire du mal, excuse-moi. Et puis, il s'arrête là et il repart. Il repart dans la maison, salir tout le reste, toutes les autres pièces qu'il n'a pas salies. Qu'est-ce que vous penserez de cet enfant? Oh là là, qu'est-ce qu'il est mal élevé! Oh là, mais qui sont ses parents? Et pourtant, combien de personnes, et j'ai des personnes en particulier que j'ai connues auparavant, combien de personnes viennent régulièrement devant le Seigneur et disent « Seigneur, pardon, excuse-moi, je reconnais toute mon erreur, je reconnais tout mon péché, je reconnais tout ce que tu me dis. » Et ils repartent, comme si de rien n'était. Ils refont les mêmes choses et ils continuent et ils éclaboussent leur vie de tout ce péché au lieu de venir saisir ce que le Seigneur propose, cette eau pure qui purifie, cette eau pure qui justifie, cette eau pure qui sanctifie. La parole de Dieu, elle est là pour non seulement nous montrer notre péché, mais pour aussi nous corriger, pour aussi nous laver totalement. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Il y a deux raisons particulières pour lesquelles on doit boire cette eau pure. Il y a parce qu'on désire l'approbation de Dieu. Est-ce que vous désirez cet après-midi l'approbation de Dieu? Je pense que c'est le désir de tout le monde d'avoir cette approbation. Le seul endroit où nous pouvons avoir cette approbation de Dieu, le seul moyen de l'avoir, c'est d'être lavé. C'est d'être totalement lavé, c'est de reconnaître notre péché, non seulement de le reconnaître, mais de laisser sa parole nous laver, de saisir par la foi que le Seigneur est capable de nous laver. Et vous savez que les Juifs, au temps du tabernacle, ils avaient toutes sortes de cérémonies, toutes sortes d'actes de purification avant de pouvoir servir. Ils devaient se laver les mains, se laver les pieds, des fois se laver le corps tout entier avant de faire toutes sortes de choses. Et ça nous fait penser à nous, à cette image, mais quand nous servons le Seigneur, mais même quand, parce qu'il suffit pas de servir le Seigneur dans l'église, mais quand nous servons le Seigneur hors de l'église, parce que c'est un service aussi, simplement de vivre la vie de chrétien hors de l'église. C'est quelque chose de fabuleux. Et quand nous servons le Seigneur de cette manière, est-ce que nous prenons le temps de dire « Seigneur, lave-moi, purifie-moi, je sais que je suis pas parfait, je sais que j'ai besoin que ton eau me purifie, je sais que je désire ton approbation, je désire pas faire n'importe quoi, je désire vraiment te respecter dans toute ma vie. Seigneur, lave-moi d'une eau pure. » Deuxième raison pour laquelle on peut demander au Seigneur de nous laver, c'est est-ce qu'on veut montrer au Seigneur notre respect. Imaginez que la personne la plus importante que vous considérez le plus dans votre vie, elle vienne taper à votre porte, elle se présente, je ne sais pas qui c'est, mais imaginez par exemple que le président François Hollande, il vienne taper à votre porte. En sachant cela, en voyant par le trou que c'est lui, est-ce que vous allez laisser la maison intacte, laisser traîner, je ne sais pas, s'il y a des pots de yaourt par terre, s'il y a des publicités. Heureusement, je sais que vous êtes soigneux dans votre ménage. Mais sait-on jamais, prenons cet exemple. Si c'était le cas, est-ce qu'on laisserait tout cela comme ça? Simplement par respect, parce que c'est le président de la République, on aurait ce respect de nettoyer tout. Et quand on est face au roi des rois, au seigneur des seigneurs, est-ce qu'on a ce même respect? Est-ce qu'on a cette même attitude de cœur? Est-ce qu'on a ce désir de lui plaire, ce désir d'être approuvé, mais ce désir vraiment de respecter, d'avoir cette crainte de lui et de dire « Seigneur, lave-moi, s'il y a quelque chose en moi, si dans mon service je peux encore progresser, si dans mon service je peux encore aller plus loin, comme il a été dit dans les chants, si je peux aller plus loin avec toi, Seigneur, aide-moi, lave-moi d'une eau pure. » C'est de cette manière qu'on a accès à la source. Parce que souvent, le piège des hommes, le piège dans lequel sont tombés Adam et Ève, c'est de croire qu'ils pouvaient être eux-mêmes la source. c'est de croire que d'eux-mêmes, ils pouvaient fournir quelque chose. Souvent, on croit que par nous-mêmes, on peut aimer les personnes qui nous entourent. On peut aimer de la meilleure des manières notre mari ou notre femme, nos enfants, nos parents. Et on croit qu'en puisant en nous-mêmes, on va réussir à communiquer quelque chose. Le problème, c'est qu'on ne sait pas, mais la Bible nous le dit, heureusement, la Bible nous dit que nous sommes vides. La Bible nous dit que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas apporter toutes ces choses. La seule manière de donner, de communiquer quelque chose, c'est d'avant tout d'aller puiser à la source. Et pour aller puiser à cette source, pour accéder à cette source, il faut être lavé, tout simplement. Pardonner, dire « Seigneur, je te demande pardon pour mon péché. Je te demande pardon, je reconnais, je crois qu'à la croix, tu m'as pardonné. Quand tu as dit « pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », je crois que c'était pour moi aussi, parce que je ne savais pas que je péchais, je ne savais pas que j'étais loin de toi, je ne savais pas que je ne pouvais pas accéder à cette source, mais par ta grâce, je peux y accéder maintenant et je veux te remercier, Éternel. Est-ce que nous sommes pressés par cette soif de pureté ? Alors retournons à cette source-là. Ne puisons pas en nous-mêmes, mais retournons la source du salut. Deuxième caractéristique de l'eau de la vie, cette eau qui procure, qui apporte la vie, eh bien, c'est qu'elle est vive. Vous allez me dire, c'est une répétition. Et on pourrait dire, l'eau de la vie, elle est aussi vivante. Ou si vous préférez, l'eau de la vie, l'eau vive, ça nous parle de quelque chose qui est en mouvement. De vie, ça nous parle de fraîcheur, ça nous parle de nouveauté, ça nous parle de renouvellement, ça nous parle de rafraîchissement. Il y a toutes ces choses qui prennent place. Et on peut lire juste les premiers versets d'Ézéchiel 47, toujours dans Ézéchiel donc, mais au chapitre 47. On va voir une eau vive justement. Ézéchiel 47, verset 1, « Il me ramena vers la porte de la maison » Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il me mesura encore 1000 coudées, me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Voilà la particularité de l'eau de la vie. Elle est vive, c'est-à-dire que c'est un torrent, c'est quelque chose qui a un mouvement, qui nous entraîne, qui nous emporte. Et quand on a besoin, quand on se rend compte d'avoir besoin de cette eau vive, c'est quand on se rend compte que justement on a perdu de notre empressement, qu'on a perdu de notre zèle, qu'on a besoin de rafraîchissement, qu'on a besoin d'être renouvelé, peut-être parce qu'on est découragé, peut-être parce qu'on s'est attiédi, peut-être que parce que notre ferveur justement s'est atténuée. C'est à ce moment-là qu'on a besoin de réaliser que nous voulons boire de l'eau vive. C'est ce que le Seigneur nous propose. Regardez le moment où Samson a été pressé par la soif et a voulu boire. C'était un moment de grande victoire qui venait d'arriver. Est-ce que ça nous est déjà arrivé à nous d'avoir connu des grandes victoires, des moments où on a vu de manière incroyable Dieu qui s'était manifesté, qu'il avait répondu à une prière? Et est-ce que ça ne nous est pas arrivé aussi de connaître ces moments de lassitude juste après la grande victoire? Il y en a à qui c'est arrivé. Je me souviens de ces moments dans ma vie personnelle où on était dans une voiture avec d'autres personnes et qu'on venait de voir des choses incroyables se passer dans notre église. Et on avait ce sentiment que notre zèle diminuait quand même, malgré tout ce qui s'était passé. Malgré les victoires du passé, notre zèle diminuait. Et je me souviens de ces prières qu'on a fait monter vers le Seigneur. Tout simplement, ce n'était pas des grands messages théologiques. C'était des prières toutes simples. Seigneur, tu vois que notre soif, elle est en train de diminuer. Viens nous redonner la soif de toi. Viens nous redonner le zèle. Viens nous renouveler par ton Saint-Esprit. Seigneur, on veut connaître ces temps de rafraîchissement que ta parole nous parle. Alors que les personnes auraient tendance à nous dire qu'il ne faut pas être trop zélé. Nous, Seigneur, on veut être zélé pour toi. Parce que nous savons que c'est la bonne chose. Nous voulons vivre une vie chrétienne avec ferveur. Une vie chrétienne qui a du goût. On ne veut pas vivre une vie chrétienne toute simple, toute morne, toute triste. La vie chrétienne, c'est quelque chose de magnifique. C'est comme un torrent qui nous emporte. C'est quelque chose qui vient du ciel et qui nous amène là où on ne pourrait pas aller. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est ça que je veux vivre quand je vis ma vie chrétienne. Je ne veux pas simplement assister à une réunion. Je ne veux pas simplement lire ma parole jour après jour ou mon trésor quotidien. Non, Seigneur, je veux une communion avec toi. Je veux goûter à ce fleuve de gloire. Quand la source de Dieu est abondante en moi, alors ça veut dire que j'ai compris ce que c'était l'eau vive. Et on peut lire Jérémie chapitre 2, verset 1 à 13, verset 2. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Jérémie chapitre 2, verset 13, voilà. Jérémie chapitre 2, verset 13. « Mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes et des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Premier péché, il s'agit d'abandonner Dieu. C'est croire que par nous-mêmes, nous pouvons être abreuvés hors de sa présence. C'est un peu ne pas accéder à sa présence. C'est un peu ce qu'on a dit concernant l'eau pure. C'est mépriser l'eau pure. Deuxième péché, c'est de se creuser des citernes crevassées. C'est de se faire toutes sortes de constructions religieuses. C'est de se faire toutes sortes de rites humains, de toutes sortes d'habitudes. Merci Seigneur pour les bonnes habitudes. Mais il ne faut pas dépendre des habitudes. Il faut que nos habitudes nous amènent toujours à Jésus. Il ne faut pas que nos habitudes nous emprisonnent une certaine portion de Dieu et qui fait que petit à petit, ça va perdre de son goût. Parce que quel est le contraire de l'eau vive ? L'eau stagnante. Si je vous donne le choix entre boire de l'eau vive que j'aurais saisi avec un verre un ruisseau en pleine montagne et une eau stagnante avec plein de bactéries et toutes sortes de nénuphars et autres habitants, laquelle vous choisirez pour boire?
Je te laisse
une... Merci, c'est gentil. Mais moi, je choisirais aussi l'eau vive. Même s'il ne faut pas de verre, j'irai plonger carrément dans la rivière parce que je sais que ça sera meilleur que l'eau stagnante. Et de la même manière, spirituellement, on ne peut pas faire des réserves de la présence de Dieu. On ne peut pas dire, et Samson a eu ce malheur de se dire, à un moment donné dans sa vie, là ça a été une bonne expérience, il a bu, mais à un moment donné dans sa vie, il s'est satisfait de ce qu'il avait vécu. Et il s'est dit, bon, mais j'ai connu de grandes choses avec le Seigneur, Dieu a même ranimé mon esprit, maintenant je peux aller voir une prostituée chez les Philistins, je peux faire toutes sortes de choses, je peux pécher en connaissant tout ce que je fais, parce que j'ai eu des grandes victoires dans le passé. Et Samson, il a fait des réserves de la présence de Dieu, et on connaît le sort qui lui a été réservé par la suite. Il s'est retrouvé à la fin de sa vie en train de tourner en rond dans la prison de l'ennemi, les yeux crevés. C'est ça ce qu'il a obtenu. Ceux qui font des réserves de la présence de Dieu, c'est ça quand on boit de l'eau stagnante. Ça amène à ce résultat-là. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de boire de cette eau vive. Le Seigneur nous dit que si nous sommes découragés, si nous sommes affaiblis, si nous passons par un temps de désespoir, il est là pour nous apporter cette eau vive qui va nous redonner le courage. Il est là pour nous apporter cette eau vive qui va faire qu'on va être renouvelé totalement dans sa présence. Parce que notre Seigneur est bon, il prend soin de nous. Et le Seigneur, il a dit, si tu connaissais le don de Dieu, celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau à boire. Et il t'aurait donné quoi ? De l'eau vive. Le Seigneur, il veut nous donner de l'eau vive. Il ne veut pas seulement nous donner de l'eau, mais de l'eau vive, de l'eau qui va nous apporter la vie, de l'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Et ne plus jamais avoir soif. Comme c'est la promesse qu'il nous fait, ça veut dire que Dieu va pourvoir jour après jour, toutes les fois où on va aller dans sa présence, on va se mettre à genoux, ou peu importe, on va aller en tout cas dans la présence, dans le lieu secret, et qu'on va lui implorer sa grâce, le Seigneur va pourvoir. On n'aura plus jamais soif, parce qu'à chaque fois qu'on aura soif, il va pourvoir. À chaque fois qu'on aura ce besoin-là dans notre cœur, le Seigneur va pourvoir, parce que c'est sa volonté. Est-ce qu'il y en a qui ont un aquarium ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, à vous qui avez un aquarium, de voir... Les poissons remontaient à la surface.
Si
Non. Pas parce qu'ils sont morts, non. Pourquoi ça arrive que les poissons remontent à la surface? C'est vrai que je réfléchissais à ça l'autre fois, parce que je suis tombé dessus. Et alors, parce qu'ils ont faim. Moi, je pensais que c'était ça. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent, quand on verse la nourriture, ça se pose à la surface, mais ça a tendance aussi à couler. Mais en fait, la vraie raison, c'est que quand ils remontent à la surface, c'est pour respirer. Prendre de l'oxygène, parce que ça veut dire que dans l'aquarium, il n'y a plus assez d'oxygène. Donc s'ils remontent à la surface, tu le sauras. En tout cas, s'il n'y a plus assez d'oxygène dans l'eau, les poissons ils sont obligés de remonter. Ça nous parle à nous, qui sommes plongés dans ce monde, qui sommes obligés de vivre dans ce monde. Le Seigneur ne nous a pas mis hors du monde, le Seigneur il nous a placés dans ce monde. Mais des fois, il arrive que dans nos vies, il manque l'oxygène, et on a besoin d'aller se ressourcer, on a besoin de monter par la prière, par un moment de communion avec le Seigneur, et ouvrir nos poumons et respirer tout ce que le Seigneur veut nous faire respirer, et nous permettre d'avoir tout cet oxygène que le Seigneur veut nous donner, parce qu'il est bon envers nous. Est-ce que cet après-midi, on veut être renouvelé? Est-ce qu'on veut être rafraîchi par sa parole et par son esprit? Est-ce que nous voulons toutes ces choses? La clé de cela, la clé de la vie abondante, la clé de l'accès à la source abondante du Seigneur, c'est sa présence tout simplement. C'est d'aller dans sa présence. Dieu désire nous laver, mais non seulement nous laver, il désire nous remplir. Et enfin, pour que nous puissions servir à sa gloire, c'est la troisième caractéristique. Parce que l'eau de la vie, l'eau qui apporte la vie, elle est aussi douce. Et on va faire cette avant-dernière lecture. Jacques, chapitre 3, verset 11. Jacques, chapitre 3, verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. La troisième caractéristique de l'eau de la vie, c'est de l'eau douce. Et dans ce contexte-là, nous savons que c'est ce qui sort de nous. Dans le contexte de Jacques chapitre 3, il est parlé des péchés de la langue, il y a toutes sortes de choses, et Jacques il est en train de dire, est-ce qu'on peut faire sortir de la même bouche des bénédictions, des louanges au Seigneur et des insultes envers nos frères? Est-ce que c'est possible? Si oui, ça veut dire que notre source est polluée. Et l'eau de la vie, en tout cas, elle est douce, et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est douce? Ça veut dire que c'est quelque chose de bénéfique. Non seulement on parle de ce côté calme et paisible, mais il y a ce côté aussi, l'eau douce, par rapport à l'eau salée, c'est-à-dire cette eau qui permet que la vie puisse croître, que les graines puissent pousser, que les semences puissent germer. C'est cette eau dont il est question. Et en tout cas, c'est ce qui peut sortir de nous. Et ça, ce qui peut sortir de nous ne peut sortir que si ça a été rempli auparavant. La question qu'on peut se poser, c'est de quoi avons-nous rempli nos vies? De quoi avons-nous rempli nos cœurs? Si, comme nous l'avons dit avant, nous avons rempli nos cœurs de l'eau vive et de l'eau pure, alors forcément ça va jaillir autour de nous. Ça va avoir un impact autour de nous. Parce que quand on accède à l'abondance de la source de Dieu, cette source-là, cette eau, elle apporte la vie autour de nous. Et pourtant, on a lu un verset. Je vais le relire avec vous, verset 12. « De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. » Est-ce que vous savez pourtant que la pluie vient de l'eau salée? Vous connaissez le principe de la pluie, c'est la chaleur du soleil, les rayons du soleil, la lumière, tout ça qui font évaporer l'eau de l'océan, qui fait que l'eau va s'évaporer, va laisser le sel, va laisser tout ce qu'il ne faut pas dans l'océan, et va permettre par la chaleur de s'évaporer. Et puis, quand il arrive à une certaine atmosphère, tout cela est condensé à nouveau, ça forme les nuages, ça retombe, et ça tombe sous la forme de pluie, de la pluie d'eau douce. Alors bien sûr, par les temps qui courent avec toute la pollution que l'on a, des fois c'est pas de l'eau douce. Mais en tout cas, la plupart du temps, c'est de l'eau douce, c'est quelque chose de bénéfique. Et sans la pluie, combien nous serions malheureux, parce que toutes les semences, si on a un potager à la maison, toutes ces choses-là ne pourraient pas germer sans cette pluie, sans cette eau douce. Et de la même manière, quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous élevons notre âme vers le Seigneur, quand nous laissons la chaleur du soleil levant embraser nos cœurs, embraser nos vies, nous nous élevons et nous laissons toutes les impuretés, nous laissons tout ce qui est mauvais derrière, en bas. Et le Seigneur permet que par son esprit, tout cela soit purifié et qu'en redescendant, nous puissions être nous-mêmes des personnes qui apportent la vie autour de nous, des personnes qui procurent du bien-être à ceux qui sont autour. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que Jésus n'a pas dit « heureux ceux qui procurent la paix » Est-ce que Jésus n'a pas dit que nous étions heureux si nous-mêmes, nous pouvions apporter la paix? Mais nous pouvons apporter la paix que si nous l'avons reçue. Voilà toute la différence. Si on essaye par nous-mêmes d'apporter la paix, on n'y arrivera pas. On pourra essayer pendant un certain temps de batailler et de faire tous nos efforts, mais à un moment donné, ça faillira, parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut apporter la paix surnaturelle, qui dépasse toute intelligence. Et je vous invite maintenant à lire ce dernier passage. Je ne veux pas être plus long. Ce dernier passage qui se trouve dans Hébreux chapitre 6 et le verset 7. Le Seigneur nous a donné cette eau vive et cette eau douce également. Cette eau qui peut faire que nous allons porter du fruit et que ça va se voir autour de nous. Cette eau douce qui amène la guérison. Et si on avait le temps, je vous aurais fait lire Ézéchiel 47, mais la suite. Et je vous aurais fait lire que l'eau qui coulait, l'eau vive qui coulait, elle allait jusque dans la mer morte et elle a porté la vie partout, ça a apporté la guérison, ça permettait que les arbres qui sont au bord de ce torrent, ils soient pleins de vie, pleins de feuilles, pleins de fruits et que ça serve à la guérison des nations. Mais on n'a pas le temps, alors je vous en passe les détails. En tout cas, lisez-le à la maison et que le Seigneur puisse vous parler au travers de cela. On va simplement finir avec ce verset. Et Hébreux, chapitre 6, verset 7, « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu, mais si elle produit des épines, des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. » Le Seigneur, il a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tout ce que nous pouvons communiquer par notre bouche, tout ce que nous pouvons aussi communiquer par nos actions, ça provient de l'abondance de notre cœur. La seule solution pour communiquer quelque chose qui vient du Seigneur, c'est simplement d'être rempli de ce qui vient du Seigneur, d'avoir cette intense communion avec le Seigneur. Et alors, le Seigneur, en tout cas, nous invite à nous laisser laver dans sa présence, à venir dans sa présence pour être lavé, à venir dans sa présence pour être renouvelé, à venir dans sa présence pour pouvoir être tellement rempli que nous allons pouvoir déborder. Peut-être ça ne va même pas s'en rendre compte. Peut-être ça va se faire naturellement. On ne va même pas faire d'effort. Parce que quand on remplit un vase d'eau et qu'il est rempli, forcément il déborde. Le vase, il ne fait pas d'effort pour déborder. Vous êtes d'accord? Il n'essaye pas de sauter ou de bouger, de gigoter dans tous les sens. Du moment qu'il est rempli, il déborde. Du moment que l'on est rempli du Seigneur, on déborde simplement. Et je voudrais simplement finir avec cette histoire. Un jour, je me promenais sur Internet parce que je recherchais des informations concernant une personne que j'avais connue. Et je suis tombé sur un site où il y avait une prédication. Et il y a un pasteur qui a prêché, que je connaissais justement, c'était cette personne. Et j'ai voulu écouter, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu, donc ça faisait plaisir d'écouter la voix, et puis aussi d'entendre un message, et j'ai écouté ce message. Et le Seigneur m'attendait au rendez-vous, parce que alors que j'écoutais ce message, à un moment donné, le pasteur, il a pris un exemple, il a dit, je me souviens de ce jeune homme que j'avais connu dans une église, il était bien gentil, il était bien brave, il était serviable, il avait toutes sortes de qualités. Mais il y avait quelque chose qui était là en lui. Il était sec. Et alors que j'écoutais, je disais, ah oui, bon, je me demandais qui c'était. Puis à un moment donné, il a dit son prénom. Son prénom, vous savez, c'était lequel? C'était Michael, c'était moi. Il était en train de parler de moi. Et vous inquiétez pas, je n'ai pas été traumatisé parce que je savais que c'était vrai. Il y a un moment donné dans ma vie, j'étais sec. Il y a un moment dans ma vie où j'étais pas assoiffé du Seigneur. Il y a un moment dans ma vie où j'étais assoiffé de toute autre chose. Et je me servais de mes études d'ingénieur pour comme excuse pour ne pas aller aux réunions. J'avais toutes sortes d'excuses, j'avais trop de travail. Enfin, je me débrouillais pour que mon travail tombe au moment des réunions, ou quand j'y allais, j'avais vraiment pas cette soif de Dieu, je trouvais le temps long, je regardais la montre en continu, j'étais sec. Et puis le Seigneur a permis que par toutes sortes de circonstances, il y a eu tellement de choses que si je vous le racontais, ça prendrait presque une autre prédication, alors je ne veux pas le faire, mais le Seigneur, il fait bien les choses, parce que il y a eu plein de circonstances qui ont fait que mon cœur a été réveillé. Je me suis rendu compte de mon état, je me suis rendu compte de ma sécheresse, je me suis rendu compte de mon besoin de dépendre de Dieu. Je me suis rendu compte que par moi-même j'étais vide, je me suis rendu compte que j'étais impur, que j'étais souillé, je me suis rendu compte de toutes ces choses. Mais je me suis rendu compte aussi que Dieu m'avait laissé tout ce qu'il fallait, il m'avait laissé l'eau de la vie pour que je puisse apaiser ma soif, pour que je puisse vraiment connaître ces temps de rafraîchissement dans sa présence. Parce que le Seigneur voulait m'attirer dans ses bras d'amour, il voulait me faire connaître plus de lui. Et parce que, pas parce que j'étais quelqu'un de particulier, mais parce que c'est le désir qu'il a pour tout le monde. C'est son désir pour chacun d'entre nous. Alors cet après-midi, je ne sais pas par quelle situation vous passez. Ce que je sais, c'est que j'avais un autre message à apporter, et puis le Seigneur m'a conduit à reprendre ce message, parce que je crois que ça parle à quelqu'un cet après-midi. Et je pense que, quelle que soit la situation par laquelle vous passez, quel que soit votre découragement, votre désespoir, quelles que soient les questions que vous vous posez, quel que soit ce qui est là dans votre vie qui fait que vous avez soif, et vous pensez trouver votre soif dans une chose ou dans une autre de ce monde, alors que le seul moyen d'apaiser cette soif, ça se trouve en Dieu. Je vous invite cet après-midi simplement à tourner vos regards vers le Seigneur, à réaliser que vous pouvez accéder à cette présence, vous pouvez accéder à cette source divine, à cette source qui purifie, cette source qui apporte la vie, à cette source qui permet que nous puissions faire du bien autour de nous. Mais vous pouvez le faire que dans la présence de Dieu. Vous pouvez le faire qu'en étant purifié par le Seigneur. Je vous invite cet après-midi à regarder vers le Seigneur, à essayer de, pas par vos forces, pas par votre richesse, pas par vos diplômes, pas par quoi que ce soit, simplement par la foi, à vous approcher de cette source et à y puiser tout simplement. Vous savez que Jésus a payé le prix élevé pour que nous puissions boire à cette source. Jésus a payé le prix élevé pour que nous puissions, dans les moments de découragement, être renouvelés véritablement. Que nous puissions connaître une vie chrétienne qui a du goût, qui a du goût non seulement pour nous-mêmes, mais qui a du goût pour les autres. Le Seigneur nous invite à tout cela. Alors je vous invite, dès maintenant, à vous recueillir. On va prendre un temps dans la prière, tout simplement, en croyant que le Seigneur va nous écouter. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu vrai, un Dieu véritable. Merci parce que quand j'étais sec, Seigneur, Tu es venu, tu t'es approché de moi et tu as permis que je réalise que ma soif, elle n'était pas placée au bon endroit. Tu m'as permis de réaliser que j'avais soif de toi, Seigneur, et que j'essayais de combler cette soif par toutes sortes d'autres moyens et que ça ne m'apportait pas la paix, ça ne m'apaisait pas, ça ne me rafraîchissait pas. Mais Seigneur, quand j'ai compris que c'était toi qui pouvais me rafraîchir véritablement, alors tu as été bon envers moi, alors tu m'as rassasié, tu m'as comblé de tes grâces. Je veux te bénir pour ces choses et je crois que cet après-midi encore, c'est ton désir pour plusieurs, Seigneur. Et je te demande, tu connais les cœurs, tu connais les vies, tu es le Dieu qui regarde au plus profond de nos cœurs, Seigneur. Et je te demande dans ces moments de parler justement à ces personnes. Je te demande de leur faire réaliser que la solution, la source d'eau fraîche se trouve en toi, Seigneur. C'est toi le seul qui peut apaiser nos cœurs, qui peut nous communiquer cette paix, qui peut nous communiquer ce bonheur éternel. Parce que c'est des choses qui viennent d'en haut, Seigneur. Et nous voulons croire ensemble que cet après-midi, que tu veux donner cela à ces amis, à ces personnes qui reconnaissent peut-être leurs péchés, qui reconnaissent leur manque de zèle, qui reconnaissent qu'ils ne procurent pas du fruit autour d'eux, qu'ils ne procurent pas la paix. Seigneur, je te demande de les bénir tout simplement. Que ta grâce surabondante puisse couler dans ce lieu, Seigneur. Que tu puisses, dans ces instants, ouvrir ton ciel de gloire et faire couler ta justice. Oui, Seigneur, nous ne méritons rien. Ce n'est pas notre justice. Ce n'est pas par notre propre justice. C'est simplement parce que tu as payé le prix pour cela. Et nous saisissons ces choses par la foi cet après-midi. Que ton nom soit béni éternel. Amen.